Merci Tiffaine et bon week-end. Quand Paris s'écrit, rue d'Amsterdam, rue Ravignan, rue Gros, boulevard Saint-Germain, dans les pas de Guillaume Apollinaire, sous la plume de Franck Ballandier, et côté but sur la piste du Chat Noir avec Rodolphe Trouilleux et Romain Nouin.
La compagnie des poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Franck Ballandier, Rodolphe Trouilleux et Romain Nouin, bonjour, bienvenue bonjour, à tous bonjour. Les trois. Une émission à, disons, pavé parisien, une géographie donc, et deux histoires, toutes deux nées en même temps ou presque, mais appartenant à des époques bien distinctes. Le Chat Noir, cabaret baptisé pour commencer rue Rochechouart en novembre 1881 par un certain Rodolphe Salis, un cabaret et une revue illustrée du même nom, réactivée depuis mai dernier par vous, Romain Nouin, est alimenté notamment par vous, Rodolphe Trouilleux, historien de Paris à qui l'on doit entre autres un Paris macabre, un Paris fantastique, une toute fraîche édition de Dessous de vérité des frères Goncourt qui paraît au Castor Astral et même une biographie de Sophie Arnoux, très parisienne et très épistolière cantatrice du XVIIIe siècle. Un an donc avant que le Chat Noir n'ouvre ses portes, naissait à Rome celui qui allait devenir Guillaume Apollinaire, à qui vous consacrez pas moins de deux livres, Franck Ballandier, l'un qui trace le Paris du poète entre 1899 et 1918, c'est-à-dire entre son arrivée à Paris et sa disparition, c'est-à-dire entre deux adresses, l'avenue MacMahon et le boulevard Saint-Germain, et qui paraît aux éditions Alexandrine. L'autre titré « Apo » aux éditions du Castor Astral, récit à trois temps, dégoupillé autour des six jours qu'Apollinaire passa à la santé en 1911, en pleine affaire du vol de la Joconde. Joplin et son célébrissime Ragtime The Entertainer, et pardon pour ceux qui ont appris à jouer au piano sur ce titre. Un petit retour en arrière, Franck Ballandier, puisqu'on est en 1902, l'année où Apollinaire entre d'ailleurs en critique d'art. Ce titre passe furtivement entre les lignes de Apo, votre roman ou récit, dans lequel vous prenez quelques libertés, dont celle-ci, Apollinaire écouterait ou aurait écouté ce Ragtime sur son gramophone flambant neuf en 1911, alors qu'il vit au 37 rue Gros, pas très loin d'ici d'ailleurs, hein, tout près de la maison de la radio, pas très loin du pont Mirabeau. Un roman en trois parties, trois temps, trois zones, hein, pour être précise. Zone 1, autour des cinq nuits passées par Apollinaire à la santé en novembre 1911. Zone 2, les cinq derniers jours d'Apollinaire emportés par la grippe espagnole en novembre 1918. Et puis enfin, zone 3, retour au présent et à la prison de la santé, évacuée pour travaux avant remise à neuf, avec visite de la présumée cellule du poète. Qu'est-ce qui se jouerait pour vous, Franck Ballandier, durant ces quelques jours d'incarcération pour que vous lui consacriez un roman récit, un très long chapitre dans votre Paris d'Apollinaire, un article, peut-être même plusieurs d'ailleurs, et même un essai hein, qui était titré « Les prisons d'Apollinaire » il y a quelques années. Qu'est-ce que ces cinq nuits-là auraient de si décisives hein, pour que vous les auscultiez d'aussi près hein, aux 750 grammes de pain par jour, aux légumes secs, aux 3 décilitres de haricots blancs près?
Oui, c'est très précis tout ça. Hein. En fait, il se trouve que j'ai travaillé pendant presque 40 ans dans l'administration pénitentiaire, et que donc dans ce cadre-là, j'ai été à un moment donné responsable de la communication, et que je me posais la question, me semble-t-il assez pertinente, de savoir comment on peut communiquer sur l'administration pénitentiaire et sur les prisons, qui sont quand même pas forcément un lieu où on communique beaucoup par définition. Et donc, j'ai proposé à la direction, à l'époque, j'ai dit, écoutez, voilà, moi, je sais qu'Apollinaire a fait 5 jours à la santé au début du XXe siècle. C'est une histoire complètement rocambolesque. On l'a accusé d'avoir volé la Joconde, en tout cas soupçonné d'avoir volé la Joconde. Donc, je me suis dit, et si on faisait une petite histoire autour de ça? Alors, le premier travail que j'ai fait, je l'ai fait dans le cadre professionnel. C'est-à-dire, j'ai fait une recherche vraiment historique pour le coup. J'ai retrouvé un certain nombre de documents très, très précis, notamment la fiche d'écrou du poète, où on apprend que sa tête fait 15 cm de haut par je ne sais plus combien de large. Enfin bref, c'est le début de l'anthropométrie. Bref, j'ai, avec tous ces éléments-là, qui étaient quand même des éléments extrêmement sérieux pour les spécialistes, pour les universitaires d'Apollinaire, enfin pour les apollinariens, comme on les appelle, je me suis dit, et si on en faisait quelque chose d'un peu plus amusant, un peu plus déjanté? Quand vous dites que j'ai pris des libertés, je pense que j'en ai pris même vraiment énormément. En l'occurrence, puisque je pars du principe, très clairement, que c'est Apollinaire qui a volé la Joconde, avec son ami Géry Pierret, qui a existé réellement, et avec Picasso, qui bien évidemment a aussi existé vraiment, mais qui lui va rester dans l'ombre, parce que Picasso est un petit peu quand même... Enfin, il sait y faire, quoi. Il s'arrange toujours pour se mettre sur le bord des histoires. Donc il sera jamais inquiété. Mais ce qui est vrai, c'est que Apollinaire a fait 5 jours à la Maison d'arrêt de la Santé en 1911, à la suite du vol de la Joconde et à la suite du vol de 2 statuettes qui avaient été revendues, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, à M. Picasso.
Elle est rocambolesque. Hein. Donc statues qui ont été volées quelques années auparavant.
Il y avait beaucoup de vols au Louvre, parce que c'était vraiment un lieu où tout le monde pouvait rentrer, sortir sans aucun problème. Il y avait des escaliers dérobés que tout le monde connaissait. Donc pas mal de vols avaient eu lieu, et donc un certain nombre de statuettes, dont celles qui ont inspiré Picasso, le dit-il lui-même d'ailleurs quelques années plus tard.
Qu'est-ce qui réclamait ou permettait l'irruption de la fiction? Autrement dit, quel trou dans l'histoire, dans cette histoire un peu folle d'Apollinaire et de la Joconde et de ses statuettes et de Picasso, qu'est-ce qui permettait justement la fiction? Est-ce qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas encore? Est-ce qu'il y avait suffisamment de trous pour qu'on puisse s'y infiltrer?
Non seulement des trous, mais je dirais presque des gouffres, notamment sur le quotidien qu'avait subi pendant 5 jours le petit père Apollinaire.
Au fond, poser autrement la question, en fait, c'était qu'est-ce que votre enquête initiale, donc là je ne parle pas d'Apo, hein, Franck Ballandier, et donc de cette fiction, mais l'enquête initiale est venue corriger de ce qu'on disait de cette affaire, hein, parce qu'elle était aussi tout enrobée de légendes. Et je ne parle pas seulement des 5 jours à la santé.
Ouais. Par exemple, les apollinariens, les grands spécialistes, disaient, oui, la fiche d'écrou concernant Apollinaire a été perdue. On considérait que c'était un surveillant mal intentionné qui l'avait arraché, qui l'avait revendu à un collectionneur d'Apollinaire qui avait payé ça à prix d'or. Et donc, on ne savait pas du tout ce qui s'était passé, de quelle manière, à quel moment réellement il était rentré en prison, à quel autre moment il en était sorti. Donc c'était des zones d'incertitude assez, assez fortes, quoi. Or il se trouve que j'ai quand même fait mon enquête, je me suis posé des questions, je me suis dit, c'est pas possible qu'on ait arraché une fiche d'écrou concernant le poète, c'est quand même énorme. Et en fait, c'est aussi bête que ça, les gens qui avaient cherché au nom de Guillaume Apollinaire, qui est son pseudo, tout bêtement, et moi j'ai été chercher tout bêtement autant, donc à son nom, Wilhelm de Kostrowitzky, et là, oh surprise, je suis tombé sur sa fiche d'écrou. C'est là où j'ai découvert qu'il savait lire et écrire, par exemple, ça on le savait un peu quand même, quand on tout ça la moindre des choses, qu'il était russe, ce que certaines personnes savent moins. Bref, c'est à partir de tous ces éléments-là...
Parce que c'est signalé hein, sur la fiche d'écrou étranger.
Oui, étranger russe, ouais. Les gens disaient aussi qu'il était tombé pour recel de vol. Or, non, il n'est pas tombé pour Russell de Waal. J'ai retrouvé une autre pièce. Je parle de tout ça. Enfin, j'essaie d'en faire une fiction par rapport à tout ça. En fait, il est tombé pour complicité de vol. Et complicité de vol, c'était beaucoup plus grave qu'un simple recel de vol. Le recel de vol, c'est ce qui aurait pu concerner Picasso, qui avait quand même chez lui 2 statuettes qui appartenaient au musée du Louvre. Mais encore une fois, Picasso, qui est quand même un gros salopard, s'est toujours arrangé pour se mettre de côté dans cette histoire-là. Voilà. Et donc, mais c'est pas que ça, encore une fois, c'est pas que la partie prison. Bien sûr, la partie prison est très importante, parce que de fait, elle a eu des répercussions sur son œuvre, sur sa manière de vivre après. Il en parle dans le poème Zone, notamment, qui ouvre le recueil Alcool. Et à plusieurs reprises, il parle de cet épisode-là. Et de vers, notamment, où il parle qu'il va souvent dans un sombre musée, on pourrait imaginer que c'est le Louvre, et qu'il va regarder de près un certain tableau. Et regarder de près en argot des prisons, c'est aussi emprunter et dérober. Donc là, on peut se poser des questions, de se dire, mais ça se trouve, c'est lui qui l'a volé, réellement. Pas tout seul, mais on peut se poser la question. Et là, je me suis amusé, évidemment.
Alors justement, cette hypothèse, cette fiction de départ, hein, sans tout dévoiler, le roman s'ouvre la nuit du 21 au 22 août 1911, qui est précisément donc la nuit où la Joconde a été dérobée au Louvre, hein, qui est une nuit d'été très chaude, pluvieuse. Ça commence à Montmartre d'abord, et puis ensuite au Louvre, dans les dédales du Louvre. Et je me demandais ce que ce geste que vous faites faire à Apollinaire, donc ce geste de prendre la Joconde, ce que ça pouvait dire de votre Apollinaire à vous. Qu'est-ce que ça voulait dire que de faire d'Apollinaire le poète qui vole la Joconde ?
Ben moi, j'aime pas les poètes qui sont lisses. J'aime pas les poètes qu'on réduit au pont Mirabeau, au coup de la Seine, etc., etc. J'aime bien les personnes.
Mal.
C'est déjà pas mal, on est bien d'accord. Mais j'aime bien les personnes qui sont un peu fracturées, un peu perchées et qui sont pas simples dans leur vie et dans leur manière de concevoir la littérature. Et Apollinaire est un excellent exemple de cela. Depuis tout petit, il est habitué, grâce à sa maman, qui est une demi-mondaine et qui joue au casino et qui perd de l'argent en pagaille. Elle lui apprend à être un petit peu voyou. Ils font des voyages avec son frère, ils sont tout jeunes, ils ont 18 ans, c'est au tout début de leur carrière, hein. De leur carrière, en tout cas de la carrière d'Apollinaire. Ils font des allers-retours avec la Belgique, et on soupçonne, ça ce sont les Apollinariens qui en parlent, on peut imaginer qu'ils auraient fait du trafic de diamants entre la Belgique et la France, par exemple. Sa mère, à un autre moment, va demander à Apollinaire de rentrer tout seul par ses propres moyens avec son petit frère qui est tout petit, qui doit avoir 16 ans à ce moment-là. Elle va lui demander de rentrer en France par ses propres moyens. Et donc, ils vont déménager à la Cloche de Bois. Il a écrit un poème, d'ailleurs, par la suite, qui s'appelle « À la Cloche de Bois ». Et donc, en pleine nuit, au troisième étage, au deuxième étage de la pension Constant à Stavelot, en Belgique, ils vont partir avec leur mal, ils vont faire plusieurs kilomètres mettre à pied pour rejoindre une gare. Bref, dès le départ, Apollinaire n'a pas été que quelqu'un qui écrivait de jolies choses, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu une vie assez aventureuse. On pourrait multiplier, hein, quand on voit les fréquentations aussi qu'il a eues tout au long de sa vie, ben c'est quand même un personnage un peu louche. Il écrit des poèmes aussi, ça c'est génial. Il est à un moment donné de sa carrière, dans une revue, il écrit des poèmes qu'il signe d'un nom de femme, Louise Lalanne. Et donc, tout le monde y croit, tout le monde pense que Louise Lalanne existe. Et là, il monte un énorme bobard avec ses amis, notamment avec Eugène Montfort. Et ils finissent par faire exister ce personnage de Louise Lalanne, à tel point qu'à un moment donné, par exemple, il y a une photo qui existe, hein, il se fait photographier en femme, déguisé en femme, sur un sofa, un peu comme à la romaine, et tout le monde y croit. Bon, après, ils vont bien sûr dire que c'est une supercherie, mais il n'empêche que Apollinaire, c'est ça. Alors, Apollinaire, c'est aussi l'opium. Apollinaire, c'est aussi, allez, on va dire ça comme ça, de manière plus moderne, les partouzes, hein, parce que c'est quand même un homme qui a vécu, j'allais dire, vraiment à 100 à l'heure par rapport à tout ça. Et son œuvre, y compris son œuvre érotique d'ailleurs, voire pornographique, le prouve. C'est quelqu'un qui était totalement libéré, en tout cas, d'un certain nombre de choses. Et c'est ça que j'avais envie de montrer, quoi.
Si tu veux, je te donnerai mon matin gay. Avec tous mes clairs cheveux que tu aimes, mes yeux verts et dorés, si tu veux, je te donnerai tout le bruit qui se fait quand le matin s'éveille au soleil et l'eau qui coule dans la fontaine tout auprès. Ma prise encore le soir qui vient revêtre le soir de mon âme triste pleurée et mes mains toutes petites. Avec mon cœur qu'il faudra près du tien garder.
Alors justement, Franck Ballandier, la fiction, c'est aussi ou surtout ce qui vous permet de creuser le rôle attribué à Géry Pierret, hein, qui est donc cet ami encombrant, l'escroc, le mauvais garçon dans cette affaire, à Géry Pierret et à Picasso. Au fond, qu'est-ce qui se passe véritablement entre les trois ? C'est-à-dire, quelle est votre hypothèse à vous, celle que les documents n'ont pas pu établir formellement ? Et puis qu'on devine un petit peu dans la fiction.
Dans la fiction. Alors, bon, Géry Pierret est un personnage que Apollinaire a rencontré tout jeune, lorsqu'il travaillait dans une banque au guide des rentiers, et donc qui était déjà un personnage un peu louche, qui a d'ailleurs été renvoyé de cette banque pour escroquerie. Donc voilà, on est déjà avec un personnage un peu particulier. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le rapport entre ce Géry Pierret et Apollinaire? On ne sait pas. Mon hypothèse, c'est que Apollinaire lui doit quelque chose et achète peut-être son silence à ce Géry Pierret d'une manière ou d'une autre, et peut-être de cette manière-là, justement. Ça, c'est mon hypothèse. Dans tous les cas de figure, Géry Pierret est quelqu'un qui, en effet, se rend régulièrement au Louvre, vole des statuettes, il s'en vante même à un moment donné à Paris Journal, qui est donc un journal de l'époque. Donc Auquel collabore Apollinaire. Il faut savoir aussi, une petite parenthèse, c'est que le passage en prison d'Apollinaire lui a bien servi, d'une certaine manière. C'est un peu comme les rappeurs qui doivent passer en prison pour pouvoir se faire une image. Mais en tout cas, son passage en prison, il sait bien le récupérer après coup, quoi. Pour en revenir à donc ces trois personnages, Apollinaire, Géry Pierret et Picasso. Picasso, dans cette histoire-là, est le commanditaire. Très clairement, il est le commanditaire des vols. Et de là à imaginer en effet que peut-être aussi il aurait été commanditaire, non seulement pas vraiment du vol de la Joconde, mais de l'emprunt de la Joconde, il faut savoir qu'il en était à ses débuts. Je vous vois être un peu sceptique, mais on est dans le roman.
Alors, de cet épisode carcéral resteront au moins deux articles, notamment dans Paris Journal, un fameux article Méprison, quelques allusions dans Zone, dans Le poète assassiné, un poème de remerciement à son avocat aussi,
oui, absolument.
Quelques traces dans le recueil Calligramme, un bout de version dans une lettre à Madeleine, donc la jeune femme qu'il rencontre dans un train pendant la guerre et puis avec laquelle il va correspondre fiévreusement, et puis évidemment avec une série de poèmes écrits essentiellement en prison, hein, même si on pense qu'il y a eu quelques petites reprises après. Oui. On en écoute un extrait.
Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu. Et quelle voix sinistre ulule, Guillaume, qu'es-tu devenu? Le Lazare entrant dans la tombe, au lieu d'en sortir comme il fit. Adieu, adieu, chantante ronde. Ô mes années. Oh, jeune fille. Non, je ne me sens plus là moi-même. Je suis le 15 de la 11e. Le soleil filtre à travers les vitres, ses rayons font sur mes vers. L'épître et danse sur le papier. J'écoute quelqu'un qui frappe du pied. La voûte. Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène. Tournons, tournons, tournons toujours, le ciel est bleu comme une chaîne. Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène. Dans la cellule d'à côté, on y fait couler la fontaine avec les clés qu'il fait teinter. Que le geôlier aille et revienne dans la cellule d'à côté. On y fait couler la fontaine. Sur le papier, à pas menus, parcours mes lignes inégales. Que deviendrai-je? Ô Dieu qui connais ma douleur, toi qui me l'as donnée, prends en pitié mes yeux sans larmes, ma pâleur, le bruit de ma chaise enchaînée, et tous ces pauvres cœurs battant dans la prison, l'amour qui m'accompagne. Prends en pitié surtout ma débile raison et ce désespoir qui la gagne. Que lentement passent les heures comme passe un enterrement. Tu pleureras l'heure où tu pleures qui passera trop vitement, comme passent toutes les heures. j'écoute les bruits de la ville. Et prisonnier sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison. Le jour s'en va, voici que brûle une lampe dans la prison. Nous sommes seuls dans ma cellule, belle clarté, chère raison.
Un extrait de La Santé, hein, dit par Jean-Pierre Marielle en 1967, tout enrobé de Satie, une série donc de courts poèmes que Apollinaire a glissé dans Alcool, hein, qui paraît en 83. Donc ce sont ces petits poèmes écrits pour beaucoup en prison, des choses laides, des choses à moitié, dites-vous. Des poèmes assez sages, assez classiques, assez réguliers, à la rigueur française, hein, dit Laurence Campa dans sa biographie. Très indulgent aussi à l'égard de l'institution pénitentiaire, ça sera davantage dans les journaux, enfin hein, dans le texte qu'il écrira pour sa gazette. Comment est-ce que vous pourriez, Franck Ballandier, expliquer cette langue, ou en tout cas cette relative retenue, classicisme, rigueur de cette langue, alors qu'il n'est pas loin de s'apprêter à écrire Zone?
Ouais, moi je me suis posé la question lorsque je les ai découverts il y a fort longtemps, ces petites séries de poèmes qui s'appellent À la santé, donc. Parce que, en fait, pour être tout à fait honnête, je trouve pas franchement que c'est ce qu'il a écrit de mieux, hein, très, très honnêtement, je trouve ça assez plat. En fait, l'intérêt de ces poèmes-là, pour le coup, ont un intérêt pour moi largement au-delà de ce qu'il propose en termes poétiques, de versification. En effet, vous l'avez dit, c'est extrêmement, extrêmement classique tout ça. En revanche, quand on connaît la prison comme je la connais, comme je l'ai connue, on a plein d'éléments qui permettent justement de retracer ce qu'ont été ces 5 jours de prison pour Apollinaire. Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu. C'est pas seulement un procédé stylistique ou un procédé, j'allais dire, poétique. C'est clairement ce qu'il a vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on rentre en prison, il faut se mettre nu, il faut montrer ses fesses, son anus, très clairement. C'est la fouille à corps, ce qu'on appelle la fouille à corps. Donc, lui, de manière déjà assez forte, me semble-t-il, c'est en ça que ses poèmes sont à la fois classiques, mais disent des choses extrêmement fortes. Il parle de sa prison à ce moment-là. Il parle très précisément de ce qu'il a vécu et de la honte qu'il a ressentie à ce moment-là. À un autre moment, il dit « Dans la cellule d'à côté, on y fait couler la fontaine ». Quand j'ai fait mes recherches, je me suis posé la question de savoir, Fontaine à Fleury-Mérogis, j'allais dire, à La Santé, j'en connais pas personnellement, quoi, de Fontaine. Je suis allé sur les plans d'architecture, je suis allé voir, et en fait, c'était tout simplement bêtement dans la cellule d'à côté, c'est le fameux robinet que chaque cellule possède, qui sert à la fois aussi d'évacuation pour les toilettes. Donc, c'est ça qu'il entend. Il entend juste une fontaine. Un robinet, et il en fait une fontaine. Et tout est comme ça dans son écriture, l'Apollinaire. Et c'est en cela que je me suis intéressé à retranscrire ces 5 jours-là à partir de ces mots-là, qui sont des mots pourtant qu'on pourrait qualifier de poétiques, mais qui ne sont pas du tout, quoi.
Comme lorsqu'il parle de la fosse, etc.
Voilà.
Au fond, qu'est-ce que cette séquence-là, et donc ces textes, ces poèmes-là, mais pas seulement, permettent de faire exister du quotidien carcéral en 1911?
Ma prétention, lorsque j'ai écrit ce livre, encore une fois une fiction, hein, clairement une fiction, c'était de montrer la pérennité qu'il y avait, et puis finalement la permanence qu'il y avait dans la prison, entre une prison en 1911 et une prison en 2015, puisque la santé a été détruite à ce moment-là. Et de fait, en recherchant justement dans ces années-là, début du XXe siècle, est-ce que moi j'ai vécu, lorsque j'ai fait mes recherches à travers donc les années 2000 en l'occurrence, et finalement rien n'avait changé. La couleur par exemple de la cellule, il en parle, une sorte de verdâtre, elle est toujours verdâtre. Quand il parle de la voûte au-dessus de lui, il entend les pas d'un détenu sur la voûte. En effet, les cellules de la santé étaient, parce qu'elles ont été détruites maintenant, étaient en forme de cellules de monastère, donc voûtées en effet, les fenêtres étaient voûtées. Donc tout prend sens par rapport à ça. Moi, j'ai fait 40 ans quasiment, 40 ans de prison si j'ose dire, en tout cas dans le bon sens du terme. Et je précise quand même que j'étais dans la partie insertion, hein. Je n'étais pas dans ceux qui enfermaient, j'étais dans ceux qui tentaient au contraire d'aider les gens à s'en sortir. Mais ce qui m'intéressait, c'était enfin libéré, puisque je suis maintenant donc libéré de cette institution extrêmement pesante que j'avais choisie réellement parce que je pensais y faire quelque chose, parce que je suis issu d'une génération où on pensait avoir des idées on en a perdu quelques-unes en route, mais on en a gardé quand même. Je voulais absolument aujourd'hui pouvoir montrer la permanence de la prison dans ce qu'elle a à la fois de pire et de moins pire, quoi. Donc c'était ça mon rôle.
Est-ce que vous voudriez bien nous faire justement lecture, Franck Ballandier ?
À présent, Élise progresse à travers les couloirs déserts. Elle suit son guide, il ne se parle pas. Elle a juste demandé qu'il l'amène là où, selon son enquête et par déduction, le poète a été enfermé. Cellule 15, 11e division. Elle ne lui explique pas pourquoi cette cellule plutôt qu'une autre. De toute manière, il ne comprendrait pas. Il traverse des zones d'ombre, longe des murs sales et lépreux jusqu'à parvenir à une rotonde vitrée. Elle sait qu'elle vient d'atteindre le cœur de la prison. D'instinct, elle le sait, ce point central de surveillance où tout converge, d'où tout diverge. C'est là que l'odeur la prend, entêtante, vaguement enivrante aussi. Elle réalise que cette odeur-là, elle l'a déjà rencontrée 100 fois. Elle fait appel à sa mémoire, elle ne sait plus trop bien c'était quand déjà. Il faudrait déchiffrer, s'appliquer. Cela ressemblerait à quelque chose d'elle, remonté de l'enfance, quand il y a encore tant des odeurs singulières, particulières et ocres. Elle voit ça de cette manière, ocre. C'est la couleur qui lui vient, définitive et immédiatement identifiable. Cela lui rappelle une odeur de cantine et de soupe, de légumes bouillis, autoclaves et vaisselle, l'odeur rance de toutes les collectivités. Elle voudrait oublier l'ennui de cette odeur, ce qu'elle lui renvoie d'humiliation de l'enfance étourdie, du bruit infect, des assiettes et des cris. Élise déteste encore, elle les détestera toujours, les grosses dames aux blouses tachées qui sentent le poireau aux pommes de terre. De celles qui cachaient derrière des louches en fer blanc, des louches comme des masses, comme des lance-pierres, des catapultes à petits pois, des balances purées, vous donnent quand on les regarde des envies de vomir et de faire demi-tour. Comme si en ce centre hypothétique se trouvaient rassemblées en une seule et même entité toutes les couleurs, toutes les sauces et mixtures du monde, l'effluve épais des cuisines souterraines, accrochées au mur, contenues par la voûte au-dessus. La prison, comme un couvercle, cet endroit, cette rotonde, comme un gigantesque autocuiseur, le ventre affamé et chaud, jamais rassasié, de tant de souffrances et de bouches. C'est une fragrance familière souvent rencontrée qui prédomine ici, mais il faudrait y ajouter, pour être tout à fait complet, d'autres mémoires olfactives. À ce stade, appelez d'autres souvenirs enfouis, les restes d'une autre enfance abandonnée. Élise se souvient aussi des longues nuits à ne plus jamais dormir, des années d'internat dans cette minuscule ville de province où ses parents l'avaient envoyée pour se débarrasser d'elle. Elle pense cela, Élise, juste pour se débarrasser. Il n'était pas très doué pour l'aimer vraiment, en tout cas pas à plein temps. Voilà ce qu'elle admet aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Alors, juste, pardon, je me suis trompé. En fait, ça c'est dans la troisième partie, donc c'est quand Élise, donc la jeune universitaire, visite la prison de la santé qui a été désertée et redécouvre donc la cellule d'Apollinaire.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Vous parliez tout à l'heure, Franck Ballandier, du fait que vous n'aimiez pas trop les personnages, en tout cas les poètes lisses, hein, et donc de ce que vous aviez fait d'Apollinaire, le voleur de la Joconde. À vous lire, dans la peau comme dans le Paris d'Apollinaire, vous semblez avoir un rapport finalement assez ambigu au personnage. Alors évidemment séduisant, charismatique, tel qu'on le connaît, hein, avec qui finira même par avoir vraiment sa cour, hein, autour de lui au café de Flore, avec aussi impossible sens de l'honneur, hein, puisqu'il ne donnera ni Picasso ni Pierret à la police. Et pourtant, vous ne le rendez pas forcément sympathique. Hein, vous le présentez comme un personnage assez ambitieux, pourquoi pas, un peu veule, un peu faible, hein, ou en tout cas suiveur. D'une certaine façon, influençable, focus même, écrivez-vous, à propos de son lien avec Sandrars, assez loin de l'image qu'on peut se faire de lui. Est-ce que c'est un personnage que vous avez appris à aimer ou que vous avez fini par aimer moins ?
On a combien de temps là pour répondre à la question ?
Très peu, en fait, parce qu'on est déjà
là,
très en retard.
Je suis un petit peu dans le caca, là. Mais c'est les deux, en fait. Hein. J'admire Apollinaire, très clairement. J'admire tout ce qu'il a pu écrire, notamment tout ce qu'il a écrit de moderne. Je l'aime moins dans cette capacité qu'il avait à être à la fois mondain, à faire semblant d'être mondain, Enfin, il l'était d'ailleurs, il faisait pas semblant, il était mondain. Et à côté de ça, il voulait jouer un petit peu au voyou. Dans les rapports qu'il a, par exemple, avec Blaise Cendrars, qui va devenir son ami ennemi intime, hein, les deux à la fois, on sent bien qu'il aimerait être, comme Blaise Cendrars, un véritable aventurier, avoir fait les mêmes choses que lui. Et donc, il oscille toujours entre ces deux choses-là et ce côté... Bon, il s'engage dans ce conflit 14-18. Il se veut patriote. Donc, il y a toujours ce mélange. Je suis un petit peu voyou, mais je suis aussi un petit peu un poète reconnu. Et il a toujours joué de cela. Juste une petite chose, j'ai retrouvé les photos qui ont été prises de lui lorsqu'il est dans le couloir du cabinet des juges d'instruction.
Avec son avocat.
Avec son
avocat.
On parlait
beaucoup de photos. Hein.
Ouais, bien sûr. Moi, je suis très visuel, donc tous mes livres, c'est du visuel. Et il se trouve que là, on voit très très bien qu'il prend la pose devant les photographes qui sont venus, parce que tout le monde a été prévenu, bien sûr, de son incarcération. Il prend la pose, il a ce petit sourire en coin qu'on lui retrouve très très souvent, un peu séducteur, on peut le dire comme ça. Et puis, il a aussi cette coquetterie de garder son canotier à la main pour éviter de montrer qu'il est enchaîné par les menottes aux gardes d'à côté. Donc, il est ambivalent. Je l'aime et je l'aime pas. Voilà, on va dire ça comme ça.
Alors ça, on le sent aussi dans le Paris d'Apollinaire, hein, que vous signez aux éditions Alexandrine. Hein, ce Paris que vous pistez, qui... Alors, bon, évidemment, Apollinaire semble couvrir quasiment l'ensemble du territoire, mais malgré tout, il y a quand même quelques zones, une fois encore, quelques zones plus concentrées. Alors, il y a autour de Saint-Lazare, là où il va vivre assez longtemps avec sa mère, et puis il va y revenir, donc la rue d'Amsterdam, le café Austin, c'est là où il va rencontrer Picasso, justement, ouais. En 1905.
Et Géry Piret aussi, c'est dans ces... On le suppose, en tout cas.
Il y a, bon, évidemment, Montmartre, hein, autour du bateau Lavoir, forcément, quelques bistrots, cabarets, c'est aussi une histoire des cafés, des bistrots. Il y a Montparnasse, étendu jusqu'à Port-Royal, hein, et sa Clouserie des Lilas. Il y aura aussi Saint-Michel, un peu, hein, la rue des Écoles, le café de la Vachette, hein, où traîne encore Huysmans à l'époque, le café Le Soleil d'Or, et puis il y aura Auteuil, hein, pour quelques mois, Saint-Germain et le café de Flore, puisqu'il s'installe boulevard Saint-Germain. Alors peut-être que ça en revient aussi à ce que vous disiez à propos d'Apollinaire. Au fond, pourquoi est-ce qu'il va choisir d'aller s'installer boulevard Saint-Germain, qui est un petit peu le lieu des artistes arrivés, ou parvenus, en tout cas, déjà, à cette époque-là. Je ne sais plus à quel numéro exactement, mais c'est
202 boulevard Saint-Germain, donc c'est au-dessus, en fait, du Café de Flore. Donc, il est vraiment dans le triangle d'or, si j'ose dire, de là où se trouvent tous les poètes, littérateurs, etc., quoi.
Montparnasse, Montmartre, Saint-Lazare, Saint-Germain, qui sont au fond des sociologies qui semblent assez distinctes à ce moment-là, et lui semble participer à tout ça. Est-ce que ce sont des paris littéraires distincts, simultanés ? Est-ce que ce sont des lieux qui montrent des époques différentes ? Et est-ce qu'au fond, ça n'est que Apollinaire qui fait le lien entre tout ça ?
Alors en fait, là, il a bien senti venir le vent des lieux où tout se passait. Il émigre de Saint-Lazare, qui est en fait son premier quartier, j'allais dire, dans sa vie, en tout cas parisienne. Il émigre de Saint-Lazare vers le bateau Lavoir, enfin vers Montmartre en l'occurrence. Je parle sous le contrôle de Rodolphe Trouilleux, là.
Beaucoup de contrôle.
Je suis contrôleur.
Et donc, il y a ça. Lorsqu'il descend de la butte Montmartre pour aller du côté de la Closerie des Lilas, c'est parce qu'il sait qu'en effet, ça commence à se jouer là. C'est que les auteurs, les littérateurs, les artistes émigrent finalement quasiment de manière simultanée dans certains endroits. Donc en effet, on peut recréer d'une certaine manière ces pérégrinations, j'allais dire, dans Paris. Pour moi, celle la plus intéressante pour justement rejoindre son côté un peu voyou dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même tout le passage à Saint-Lazare, où il va en effet rencontrer les personnages les plus louches, hein, très, très très clairement. Mais en tout cas, je vais pas le soupçonner, parce que pour le coup, on va dire que je l'aime pas du tout, alors que je l'aime, cet Apollinaire-là. Mais il a ce talent de sentir les choses et de sentir où ça va se passer. C'est pas pour rien d'ailleurs que, y compris pour sa poésie, ils sont le vent venir avec Cendrars. Cendrars arrive avec les packs à New York. Lui, il est en train d'écrire Zone. Ils se retrouvent à un moment donné au même endroit quasiment. Quand ils reviennent de guerre, c'est le Café de Flore qui va être leur quartier général, à l'un comme à l'autre, mais à beaucoup d'autres aussi. Donc, en effet, Enfin, pour moi, c'est le même pari. Sauf qu'il y a un pari du débutant, c'est celui de Saint-Lazar, où il est paumé, il n'a pas un rond, très clairement. Il y a quelques cafés que vous avez cités où, en effet, il va lire ses premiers vers. Et puis, il y a la reconnaissance, entre guillemets, qui finalement intervient très tardivement sur le plan purement littéraire. Et c'est donc le Café de Flore, la Closerie d'Elia, qui sont encore aujourd'hui, d'ailleurs, des lieux où il est bon de paraître lorsqu'on veut être écrivain.
Un peu moins, peut-être, aujourd'hui.
C'est pour ça que j'y vais jamais, d'ailleurs.
Je donne la parole au contrôleur.
Le contrôleur ne va jamais au Café de Flore et jamais à la Closerie des Lilas.
Ça me fait plaisir.
Il va dans des bistrots beaucoup plus simples, si possible.
Voilà. Oui, un mot peut-être, justement, sur cet itinéraire et puis sur ce quartier, effectivement, dont on parle beaucoup moins, qui est le quartier du débutant, comme vous dites, qui serait le coin de la rue d'Amsterdam au début du siècle.
Oui, c'est un quartier assez interlope à cette époque-là. Il est resté même assez longtemps, puisque moi j'ai vu des petites dames du côté du passage de Budapest, et tout comme ça. C'est un quartier de gare, donc forcément un quartier relativement mal fréquenté, un quartier d'hôtel. Donc voilà, avec des gens qui sont à l'affût des voyageurs partant, des voyageurs arrivant. Voilà, c'est tout ça. Mais...
Alors sur cet itinéraire-là, justement, Rodolphe Trouilleux, c'est-à-dire... Partir du coin de Saint-Lazare, suivi de Montmartre, si je ne me trompe pas, suivi un petit peu d'Auteuil, alors ça c'est un peu la bizarrerie dans l'itinéraire, et puis suivi du boulevard Saint-Germain, au fond, est-ce que ça trace une histoire du Paris littéraire ou une histoire de l'ascension d'Apollinaire, au fond, est-ce qu'à chaque fois qu'il se déplace, il ne se passe plus rien derrière lui ou c'est simplement lui qui change ?
Je pense que c'est un peu les deux, puisqu'il me semble qu'il soit venu à Auteuil, je dirais pas à cause, mais grâce à Marie Laurencin, pour ce qui est de son changement de quartier. Je pense qu'il suivait aussi toutes les tendances des mouvements, les gens de la littérature, comme le cinéma de la littérature d'avant-garde surtout, se fréquentaient dans des soirées plus ou moins habillées, plus ou moins arrosées, et là, les choses se passaient. On sait après, par exemple, mais c'est un moment après, que une partie du Paris artistique et littéraire, à un moment donné, est partie de Montmartre, a quitté vraiment presque Montmartre pour aller vers Montparnasse.
C'est ça, oui.
Pourquoi ? Parce que la fameuse ligne de métro Nord-Sud avait été construite. Ouais. C'est une question tout à fait matérielle. Donc des gens sont allés en éclaireur et ils sont arrivés à Montparnasse, un quartier de gare aussi, donc un quartier un peu particulier. Ils ont envahi Montparnasse et en ont fait un des quartiers les plus artistiques des années 20-30.
Je parle de cette fameuse ligne, tu as raison d'en parler, la fameuse ligne de métro nord-sud, c'est vraiment la ligne qui va permettre justement, j'allais dire, la migration des poètes et des artistes du haut lieu de Montmartre, en effet, jusqu'à Montparnasse et jusqu'à la Closerie. C'est assez marrant qu'en effet, c'est une histoire de métro au départ.
Tout à fait, tout à fait.
Alors on va tout de suite parler du chemin inverse, c'est-à-dire de la rive gauche à la rive droite. Quelques années avant.
La lune était sereine, quand sur le boulevard, le vif poivre se tête, qui me dit les regards, d'où viens-tu, vieille branche ? Moi je lui répondis, c'est aujourd'hui dimanche, et c'est de bonne nuit. Je cherche fortune autour.
Alors, la voix forte d'Aristide Bruand, alors pendant qu'on écoutait ça, on m'expliquait justement qu'il fallait chanter très très fort à cette époque-là pour pouvoir prendre la voix, enfin pour l'enregistrement, parce que c'est un enregistrement de 1911, je crois, si je ne me trompe pas, donc je cherche fortune. Aristide Bruand, mort en 25 à Paris, c'est-à-dire bien après Apollinaire, et qui pourtant semble appartenir à une époque bien plus ancienne. Qu'est-ce que vous y entendez, vous, Rodolphe Trouilleux ? Quel temps, quelle image y voyez-vous ?
Le Bruand ? Si on s'arrête à Bruant avec l'image qu'on en a sur tous les posters, les sous-bocs et tout ce qu'on peut voir,
les mugs.
On a l'image d'un monsieur habillé en noir, de dos, avec une écharpe rouge et un grand chapeau noir. Bruant, c'est aussi ça, parce que Bruant a utilisé une image, c'est un homme d'image, et il a fait du commerce comme tout, beaucoup de gens qui sont venus à Montmartre et qui ont exploité un filon, qui ont lancé presque une marque. Donc Bruant, il a ouvert un cabaret qui s'appelait Le Mirliton, qui a succédé au Chat Noir d'ailleurs, à la même adresse. Et là, il a reçu des gens qui venaient souvent s'encanailler le soir, comme on dit à Montmartre, s'encanailler gentiment. On venait s'asseoir au cabaret. Des bourgeois, pas que des bourgeois, mais des bourgeois, on sait que des gens en frac, en chapeau haut de forme, et des dames fort bien habillées, fort bien chapeautées, venaient le soir pour entendre des choses un peu lestes, quand même lestes, mais de bonne tenue. Donc, à chaque fois qu'on rentrait dans le cabaret de Bruant, la foule reprenait en cœur. Qu'est-ce qu'il a? Quelle gueule il a? Ah, cette gueule qu'il a. Pour un peu casser l'entrée de la personne et un peu la déconcerter. Mais bon, c'était bien gentil. Bruant, à côté de ça, était un type très intéressant, un auteur très fin, qui a écrit vraiment des poèmes vraiment assez remarquables. Alors on en a gardé une image un peu qui est colportée aussi parce qu'on vient d'entendre l'histoire d'un... Alors que c'était quelqu'un de très fin, de vraiment très distingué et avec un potentiel littéraire important.
Dans la fameuse chanson qu'on vient d'entendre, il y est question du Chat Noir, et ça tombe bien, hein, donc ce cabaret qui sera suivi d'une revue du même nom, imaginée par Rodolphe Salis, pour en assurer la promotion, là aussi, hein, tout ça était quand même des stratégies relativement bien organisées, revue remise en selle par vous, Romain Noy, depuis mai dernier, en respectant sa typo, son format, c'est disponible à la Criée, je crois.
Exactement, on va à la Criée, demain d'ailleurs. Voilà, et on vend à partir de dimanche dans les kiosques du quartier.
Parfois en kiosque.
Ouais, parfois.
Parfois en kiosque. Ouais. 4 pages avec ses textes satiriques, ses signatures sous pseudo, cocasse, ses illustrations, ses réclames, et puis un petit peu son vernis nostalgique, mais on va y revenir, j'imagine. Qu'est-ce qu'une telle revue évoquait pour vous?
La liberté. La liberté, je crois que c'est le sentiment qui a soufflé un petit peu sur toute cette période. C'est vraiment un sentiment de liberté où Montmartre et surtout ce boulevard va devenir un espace de bulle où les gens vont se permettre un peu tout et n'importe quoi.
C'est-à-dire?
Bah, ils vont aller un peu plus loin, et je parle bien sûr sous contrôle de...
Bah, bien sûr, j'espère bien.
Le contrôleur qui fait la moue un petit peu, sur le tout et n'importe quoi.
Non, tout et n'importe quoi, c'est un peu... Je ne veux pas contrarier le vénéré directeur du Chat Noir, mais l'impression du n'importe quoi. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que les textes publiés dans le Chat Noir, particulièrement à l'époque, maintenant c'est autre chose peut-être, mais les textes de l'époque étaient quand même très... très cadré, très bien écrit. Donc c'est du n'importe quoi, mais c'est un peu l'étiquette du n'importe quoi. C'est plutôt du festif, c'est un peu du comme on dit maintenant, du barré, enfin des choses comme ça.
Pour reprendre, c'est de l'absurde. Autour de l'absurde, c'est un journal satirique et absurde, qui se moquait assez largement de ses contemporains, qui réagissait à l'actualité, mais qui mettait en avant surtout des poètes, des littérateurs.
De te rappeler que
il y a des grosses plumes
qu'on a vu des grosses plumes comme vous dites,
bah, voilà,
on a vu
Verlaine, de taille, Jules Jouy,
Jean Lorrain, on connaît moins, mais moi que j'aime beaucoup, donc oui, Paul Verlaine aussi, effectivement, enfin voilà, il y a eu toute une clique qui était à la pointe et qui écrivait vraiment dans ce journal, qui était un petit peu la bande d'Arakiri de l'époque, en fait, pour faire le...
Un hebdomadaire, quand même. Donc, il faut voir un gros travail.
Oui, c'était un journal qui était aussi
soutenu. Et qui est sorti pendant de 81 à 95. Donc, qui a eu une longévité, quand même, très grande pour un journal de cette époque-là.
Plus long que le cabaret. Non, c'est 97.
Le cabaret est un peu mort avec Rodolphe Salis parce qu'il portait, via le personnage qu'il était, le succès du cabaret. Ça lui attrait logiquement, les gens se déplaçaient pour lui, pour sa capacité, ses monologues, le charisme qu'il avait à présenter tous les poètes. Et Salis et sa bande ont créé au fil du temps, en fait, un petit peu la société moderne du spectacle qu'on connaît aujourd'hui. Le Chat Noir, c'est l'antichambre du slam, l'antichambre du cinéma, l'antichambre de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Voilà.
Alors justement, qu'est-ce que ce Chat Noir, et là je parle du cabaret, mais au fond, hein, la revue découle évidemment directement du cabaret. Qu'est-ce que ce Chat Noir crée, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il innove en 81, c'est fin 81, début 82, hein, je crois, l'ouverture du Chat Noir. Qu'est-ce qui change avec lui?
Avec le cabaret, vous voulez dire? L'intelligence de Rodolphe Salis, c'est d'être un sacré malin, d'être quelqu'un d'audacieux et de forcer sa chance. Ce qu'il va faire, en fait, Salis, c'est qu'il va poser un piano en permanence sur la scène. Voilà. C'est la grande nouveauté. C'est un truc qui était interdit. On ne sait pas trop s'il a demandé l'autorisation ou pas, à demi-mot, parce qu'il y avait des commissaires, il y avait beaucoup de gens de pouvoir qui fréquentaient son cabaret, qui est très vite devenu un lieu incontournable du tout Paris. Donc il s'est permis d'aller un petit peu plus loin, et il a disposé ce piano, et ce piano a permis, en fait, de présenter différents poètes qui venaient déclamer leurs textes, en fait, qui sont un peu le slam qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ça qui a vraiment révolutionné la chose, quoi. Les gens n'allaient plus dans les salles de spectacle pour voir un spectacle simple, mais il y avait une vraie interaction avec le public. C'est le public réagissait au cas par cas, huait, applaudissait, adorait ou non, et vous aviez une ribambelle de poètes qui pouvaient s'essayer et démarrer leur carrière au Chat Noir.
Mais ça n'était pas nouveau, parce que les réunions de poètes où on pouvait déclamer,
c'était en cercle,
où ils venaient déclamer des poèmes, ça se faisait avant.
Ça se faisait en salon.
Ou dans les cafés aussi.
Ah bon, Rodolphe?
Oui, non, mais c'est, si vous voulez, quand on rentrait au Chat Noir, on pouvait suivre une conférence, on pouvait entendre des poèmes, des monologues. On a pu à un moment donné voir le théâtre d'ombre. Tout ça, c'est l'exploitation d'un concept bien particulier du spectacle, un peu du spectacle total, quelque part, et d'un endroit où on pouvait boire, manger, rêver, entendre un poète ou écouter de la musique, parfois jouée par Eric Satie ou Debussy quand même. Peut dire que le niveau du Chat Noir, c'est qu'il était très élevé, au point de vue de la qualité des textes, au point de vue de la qualité des musiciens. Tout Montmartre, à cette époque, exploitait des concepts. C'est pas une chose qui est arrivée à notre époque, c'est que le Chat Noir est venu d'une idée comme ça, de Salis, qui au départ était un mauvais peintre, qui faisait plutôt des chemins de croix. Ça paraît un peu curieux, ça marchait pas des masses, il faisait ça avec Antonio de la Gandara, et puis comme son père était marchand de vin, en province, il s'est dit, tiens, je vais ouvrir un établissement. Il s'est approché d'Émile Goudot, Émile Goudot qui avait créé le club des hydropathes au quartier latin, où on disait beaucoup de poésie, il y avait des fois 300, 400 personnes qui entendaient de la poésie, qui en disaient, et on buvait pas mal. Donc c'était une
hydropathe.
L'hydropathe, ça vient d'Hydropathenwalz, c'était une valse autrichienne qui aimait beaucoup Goudot. Dû au célèbre Joseph Gogol.
Il y a peu Goudot temps. Aussi, le jeu de mots avec Goudot, hydropathe, enfin, voilà, qui collait pas mal.
Donc tout ça s'est transporté. Émile Goudot, le Chat Noir est né de l'association de Salis et de Goudot.
Ouais.
Et donc ils se sont installés là, dans un ancien poste, boulevard de Clichy, et ils ont créé ce cabaret qui était au départ de taille très réduite.
3,50 m sur 7 mètres de long.
Et ils ont reçu quand même des visiteurs très prestigieux, puisque Zola au départ venait là, on a vu Hugo aussi venir dans ce cabaret. Donc on sent là qu'il y avait une puissance, une pression poétique, littéraire, artistique, parce qu'en plus les peintres étaient là, vous aviez Villette, vous aviez d'autres, vous aviez Henri Pille qui a dessiné le très beau titre du journal du Chat Noir, et qui plus tard dessinera la façade du nouveau cabaret du Chat Noir, parce que le Chat Noir tellement à l'étroit qu'ils vont obligés de partir, ils vont aller rue Victor Massé, qui était à l'époque la rue de Laval.
Où a vécu Apollinaire, un tout petit temps d'ailleurs.
Et où on va faire ils vont passer le boulevard, ils vont aller en dessous, Et ils vont faire créer un décor totalement délirant d'anciennes auberges avec néo médiéval, des trucs un peu bizarres.
Alors justement, là, le spectacle effectivement passe par le décor aussi. Pour le Chat Noir, par un décor, on peut vraiment appeler ça un décor très chargé. Mmh. Qu'est-ce que ce décor-là justement racontait de l'esprit Chat Noir, bien sûr, mais de l'époque surtout, c'est-à-dire
c'est,
de cette époque,
c'est, la, c'est la mode de l'époque. On a fait des restaurants aussi à l'époque comme ça, il faut bien voir ça. Des auberges avec des faux colombages en façade, des choses comme ça, il en reste des fois quelques-unes. C'était vraiment... Salis n'invente pas tout, il rentre dans son époque avec ce système. Et là, par contre, il va s'entourer à chaque fois de gens d'un très haut niveau.
Ouais, des meilleurs de l'époque.
Des meilleurs de l'époque. Et là, il va demander, par exemple, l'entrée de la façade du Chat Noir va être dessinée en partie par Villette. On va créer la fameuse enseigne qui est maintenant au musée Carnavalet, où Grasset, il y a un chat furieux sur une
demi-lune,
un rayon de lune.
Oui, qui est aussi sur les mugs, les cartes postales.
Voilà, que maintenant on trouve, et qui est donc maintenant célèbre, on peut dire, dans le monde entier. On venait chercher là, on venait manger, on venait boire, on venait assister à un spectacle, et ça a permis aussi à beaucoup de gens du milieu donc littéraire, artistique, de s'exprimer.
Et ce décor à l'intérieur, excusez-moi, c'est parce que juste moi j'arrive pas bien à me rendre compte de ce que c'était une fois qu'on pénétrait dans ce lieu-là. Qu'est-ce qu'on y voyait?
Parce que c'était le décor d'une auberge un peu moyenâge, enfin entre le Moyen-Âge et Louis XIII.
Il y avait une grande cheminée, par exemple, une vraiment grande cheminée, grosse cheminée imposante. Au-dessus, vous aviez un portrait de Salis de Candéra, justement, en pose
La Gandhara.
En pose. Mais comme on peut l'avoir, des portraits de nobles, en espèce de chasseur. Vous aviez le perché dominé forcément de
Villette. Oui, le grand tableau de Villette qu'on peut voir maintenant au musée de Montmartre et qui est très symboliste parce que c'est une
époque.
On voit une foule de pierrots, de jeunes femmes et d'autres personnes défiler. Vous avez les moulins dans le fond et vous avez une tête de mort qui apparaît. C'est-à-dire, c'est un peu le symbole de toute cette époque qui est à la fois, qui peut être très joyeuse et très noire. Mmh. C'est l'époque du symbolisme, c'est l'époque de tous les poètes un peu décadents. Mmh. Donc, on est en plein dans cette ambiance-là. Le Chat Noir est un cabaret décadent. Mmh.
Alors, à vous entendre, cet esprit-là serait toujours là et ne demanderait qu'à être ranimé.
Je suis le fils des villes, nom de mon village. Si j'ai des envies, des besoins, c'est la photo grand magasin. À l'heure magnifique, c'est à l'âge. On entend Jeanne le boulanger, comme si qui serait prêt de son prépa. Et ses soupirs me font songer, qui fait du pain ou je mordrai pas. Quoi il faut dire, quoi il faut faire, j'ai même plus la force de pleurer. Je sais pas pourquoi je suis sur la terre, et je sais pas pourquoi je m'en irai. Quoi il faut dire, quoi il faut faire, j'ai même plus la force de pleurer. Je sais pas pourquoi je suis sur la terre, et je sais pas pourquoi je m'en irai.
Et moi, j'allais peut-être sauter et créer un beau fait divers, mal réveillé de mon songe d'été, je me suis sauvé dans l'hiver, je me suis sauvé dans l'hiver, je me suis sauvé.
Deux voix donc, celle du rappeur Virus et celle du comédien Jean-Claude Dreyfus, disant des extraits des Soliloques des pauvres du poète genreux en rictus. Ça, c'était à la Maison de la Poésie en 2017. Mm-hmm. Vous pensez vraiment que les rappeurs se reconnaîtraient dans l'esprit, chanoiresque, et éventuellement celui de chansonnier?
C'est même pas qu'ils se reconnaîtraient, c'est que pour moi, ils font le même métier, en fait. C'est exactement le même métier. C'est les chansonniers du Chat Noir étaient des gens qui avaient des textes, un piano. Et ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est des textes et un beatmaker, en fait. Voilà. Il y avait quelqu'un qui faisait un beat, il y avait souvent Alphonse Allais qui faisait un petit peu de tambour, pendant qu'on avait du Satie au piano, Debussy ou Sivry, et le chansonnier qui récitait ses textes. Donc pour moi, c'est des choses qui se font écho, quoi. C'est les chansonniers modernes, voilà, sont les rappeurs qu'on connaît, les Moal, Asqual, Orelsan, tout ce que vous voulez, les Virus. Et je pense que Virus est le meilleur exemple. Moi, quand j'ai découvert le travail de Jean Vitus, j'ai d'abord connu le CD de Virus. Et je trouve ça incroyable. C'est des textes qui sont incroyablement modernes.
Peut-être rappeler qui est Jean Rictus.
Jean Rictus, c'était un poète du Chat Noir qui a connu un bon succès pour l'époque, je crois. C'est pas celui qui a fini aux Académies, mais
non.
Mais bon, enfin bon. Voilà. Donc et les Soliloques du pauvre sont l'histoire d'un pauvre, d'un clochard qui se balade dans les rues et qui raconte un peu son quotidien, son année, puisque ça se divise en saisons. Et donc voilà. Donc j'ai contacté Virus pour lui demander. Enfin, on a discuté un peu de tout ça. Je trouvais c'est incroyable. Et effectivement, les textes pour lui sont modernes. Donc pour lui, c'est d'une logique. Une logique implacable, mais pour moi aussi, parce que c'est effectivement le même métier, sauf qu'il y a 100 ans d'écart, quoi. C'est tout. Mais...
Alors, Montmartre se perdrait dans les commerces de vêtements, les magasins de bouche bio, sans gluten, ou que sais-je, ou je n'en sais rien.
Les bougies.
Les bougies, éventuellement. Pourquoi alors en passer par cette image-là de Montmartre pour lui redonner vie mais on peut évidemment se poser la question, c'est-à-dire en passer par, au fond, ce qui ressemble aussi à un décor de carte postale pour touristes, il faut bien le dire, hein, parce que j'imagine que c'est aussi à eux que ça s'adresse. Je crois même qu'en été, vous avez publié en plusieurs langues, un peu comme dans les menus des restaurants de Montmartre.
Exactement.
Oui. Est-ce que rééditer le Chat Noir, est-ce que ça n'est pas, au fond, rejouer aussi un peu Amélie Poulain, donc fétichiser, muséifier
ouais,
le lieu, l'époque.
Mais je pense que l'intéressant là-dedans, justement, c'est de dire aux gens, attendez, vous connaissez tous l'affiche de Stalin, vous l'avez tous peut-être chez vous, en levant la tête, ça machin, mais...
L'affiche du chat noir,
la tournée du Chat Noir de Rodolphe Salis, enfin, je crois même que c'est dans le décor de l'appartement de Friends, enfin voilà, c'est quelque chose qui est ultra connu aux gens. Ce qui est encore plus incroyable, c'est l'histoire qu'il y a derrière cette affiche. Donc c'est ça, nous, qu'on veut faire redécouvrir, c'est pour ça qu'on ressort un journal d'époque, c'est pour dire c'est ça Montmartre en fait. C'est cet esprit-là, c'est un esprit décadent, c'est un esprit libertaire, c'est un esprit chanoiresse, c'est on se moque.
La provocation, pas simplement la provocation, elle a besoin d'un support et je trouve que le Chat Noir est le support idéal pour ça. La provocation est, disons-le carrément, la déconne. Pour rigoler un peu, ça nous fera. Franchement, ça fera de mal à personne.
Ouais.
Voilà, on va s'arrêter là. Franck Ballandier, Rodolphe Trouilleux, Romain Noir, merci à tous les trois. C'est presque la fin de cette émission puisque je vous laisse la conclure entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à toutes et à tous.
Ça va, elle est sympa en vrai.
On a été plutôt pas mauvais, non?
Non, ça va. Sous contrôle de Rodolphe Trouilleux.
Toujours contrôleur.
Cette radio,
toujours contrôleur. C'est lui qui nous a contrôlés de tous les côtés.
Ah, mais tant mieux.
Je peux vous lire un truc? C'est un texte de Maurice Donnet, ça s'appelle « De mon séjour au Chat Noir ».
Un de la bande au Chat Noir.
Par les beaux jours d'été, nous déjeunions devant la grande baie ouverte sur la rue Victor Massé. Chaque mercredi à 1h, la voiture du monde qui était passait. Nous la guettions, et dès qu'elle apparaissait, nous nous levions, clamant et réclamant « Ma montre! Ma montre !» Et chaque mercredi, nous trouvions cela plus amusant encore que le mercredi précédent, signe d'une conscience tranquille et d'une grande pureté. Parfois, Georges Auriol bondissait dans la rue, enveloppait de sa serviette le chef d'un inoffensif passant et l'amenait, ainsi encapuchonné, au milieu de nous. C'était le temps qu'à la plaza de la rue Pergolèse, il y avait des courses de taureaux. Alors on expliquait à l'homme que Georges Auriol était un des plus convaincus aficionados, qu'il avait agi sous l'empire de la plus noble passion tauromachique, et la victime, devant tant de bonne foi, s'excusait. Ça aussi, c'était le Chat Noir.
C'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Stéphane Touvenin pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Franck Ballandier, Rodolphe Trouilleux, Romain Noua. Vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter, partager et podcaster sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique de Nicolas Martin.